Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Didier Blé.
Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. La publication de la liste électorale provisoire a été faite le 20 mai. Mais bien dans cette édition, le conseil spécial du président de la CEI, la commission électorale indépendante, reviendra sur quelques statistiques de ce listing en début de journal. En prélude donc à ces élections locales du 10 septembre 2023, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a produit un communiqué dans lequel il demande aux acteurs politiques d'apaiser le climat en période électorale. Un page africaine Burkina Faso, 6 personnes dont des acteurs de la société civile ont été interpellées hier dimanche pour divulgation de fausses informations et incitation à un attroupement armé. Et puis en toute fin de journal, Fidel Sarasoro, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, sera interrogé par Mata Touré. L'entretien portera sur la mise en place d'un dispositif d'assistance humanitaire et d'aménagement de sites d'accueil pour les réfugiés en provenance de Burkina Faso. Merci de nous retrouver et bienvenue à tous. C'est une liste de 8 016 796 électeurs potentiels qui entrent dans la phase du contentieux du 1er au 10 juin 2023. À la cérémonie de remise de cette liste aux partis politiques le samedi 20 mai, le conseiller spécial du président de la CEI, la commission électorale indépendante, a relevé quelques statistiques. On écoute Antoine Adou.
Comme nous l'avions indiqué à l'époque, la population cible visée par le recensement comportait deux catégories. Les personnes qui figuraient déjà sur la liste électorale, catégorie 1, et les personnes qui n'y figuraient pas, donc qui venaient pour la première fois nouvellement, donc catégorie 2. Donc en termes de recensement sur le terrain, d'abord en ligne, nous avons reçu 36 290 personnes, 354 126 qui sont venues se faire recenser in situ dans nos centres. Catégorie 2, donc les personnes qui venaient pour la première fois. In situ, donc dans nos centres de recensement, 715 526, ce qui fait que nous avons reçu au total, en termes de demandes de recensement, en ligne et in situ, 1 105 942, dont 5 234 à l'étranger. Nous avons vu des personnes disant être venues se faire recenser pour la première fois, alors qu'en fait, elles étaient déjà électrices. Donc ce ne sont pas des catégories 2. Donc lorsque nous remettons ces personnes-là dans leur catégorie, nous avons en fait 464 522 catégories 1. Donc les vraie catégorie 2, donc nouveau, il y en a 575 489. Mais ce qu'il faut noter, ce sont les 575 489 ajoutés aux 7 495 02 qui donnent les 8 016 électeurs figurant sur la liste provisoire 2023.
Antoine Adouf, conseiller spécial du président de la commission électorale indépendante. Et puis l'absence sur la liste électorale provisoire en 2023 du président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire n'est pas une surprise selon l'analyste politique Geoffroy Julien Kouaou. Nous l'écoutons.
Non, mais ce n'est pas une surprise. La non-présence du nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. En ce sens que nous savons que M. Laurent Gbagbo a été judiciairement condamné et il a bénéficié d'une grâce qui certes le dispense de l'exécution de sa condamnation, mais n'efface pas cette condamnation, encore moins l'infraction qui lui est reprochée. C'est donc normalement que nous apprenons que M. Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale pour indignité.
La non-présence du nom de Laurent Gbagbo sur la liste provisoire, est-ce que cela est fait pour apaiser le climat social en Côte d'Ivoire?
Vous savez que l'exclusion électorale est une véritable coutume politique ivoirienne. Avant-hier, c'était M. Alassane Ouattara qui était exclu du jeu électoral. C'était aussi en 2000 le cas de M. Henri Conan Bédié qui était exclu du jeu électoral. Et aujourd'hui, c'est le cas de M. Laurent Gbagbo. Malheureusement, nous ne tirons pas les leçons du passé et malheureusement, notre passé nous rattrape. Je pense que la question de la non-inscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale ou éventuellement de sa participation au jeu électoral n'est pas d'ordre juridique, mais d'ordre politique.
Monsieur Fazilien Kouaho, il est juriste et analyste politique. Il était interrogé par Ouattara Gapienan. Eh bien, en prélude de ces élections locales du 2 septembre 2023, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, OIDH, a produit un communiqué dans lequel il interpelle les leaders politiques quant à l'apaisement du climat politique avant et après les élections. On écoute à cet effet Akemel Cristiano, juriste et membre de l'OIDH.
Les élections en Côte d'Ivoire ont été au principe de plusieurs crises importantes, occasionnant de graves violations et atteintes aux droits de l'homme. Les victimes qui y procèdent se comptent en milliers. À l'approche donc des élections de 2023 et de 2025, l'OIDH voudra attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, afin que les facteurs qui concourent à l'occurrence de ces crises malheureuses et successives soient présents dans l'esprit des uns et des autres et adressés efficacement en urgence de leur point de vue. Ces points aussi essentiels que fondamentaux, à savoir l'impunité, c'est-à-dire achever les poursuites contre les personnes à qui des crimes et des violences politiques pourraient être valablement reprochés. Deuxième point, nous trouvons que la CEI ne rassure pas et donc il faut régler les critiques qui sont permanentes à propos de la dépendance et de la partialité de la CEI pour la rendre conforme à l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 10 novembre 2018. Nous pensons que la CEI, dans son état actuel, est truffée d'acteurs politiques. On ne peut pas être objectivement juge et parti dans une compétition. Et enfin, comme dernier point, l'exclusion de certaines personnes politiques de la liste électorale. Nous rappelons l'existence à cet effet des arrêts du 15 septembre 2020 qui ont requis la réintégration de ces personnes sur la liste électorale. Il serait souhaitable, de notre point de vue, de garder la cadence en évitant la répétition d'actes d'exclusion dans le débat et dans la compétition politique qui pourrait davantage crisper le climat sociopolitique et faire le lit d'éventuelles violences politiques dans les cycles électoraux à venir comme par le passé.
Alors vous écoutiez à l'instant Akemel Cristiano, juriste et membre de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. À 12h06, parlons à présent de violences basées sur le genre. Selon le dernier rapport 2022 du CNDH, ce sont plusieurs cas de violences basées sur le genre qui ont été déclarés et traités, dont 1198 cas de viol, 260 cas d'agression sexuelle, 1826 cas d'agression physique, 182 cas de mariage forcé. Et bien dans cet état de fait, l'ONG, Réseau des hommes engagés pour le genre, demande que la répression soit de plus en plus importante afin que la dénonciation permette de mettre fin aux exactions. On écoute Ghislain Koulibaly, président de ce réseau.
En 2019, la Côte d'Ivoire avait enregistré 3195 cas de violences basées sur le genre. En 2020, nous étions à 5405 cas de VBG et en 2021, nous étions à 6040 cas de VBG. Alors cela montre bien que nous sommes aujourd'hui dans une culture de la violence et malheureusement, la catégorie la plus exposée à ces violences basées sur le genre, ce sont les femmes. Et vous constaterez que nous avons les types de VBG, les cas de viol, les cas d'agression sexuelle, les cas d'agression physique, les cas de violence psychologique et émotionnelle, les cas de DROS, déni de ressources, d'opportunités, de services. Oui, nous sommes dans une sorte d'ampleur de ces violences basées sur le genre. Et si nous avons cette tendance, ce n'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup de cas de VBG, mais c'est parce que le gouvernement ivoirien, en collaboration avec les partenaires au développement et les organisations de la société civile, ont réussi à sensibiliser et à imposer justement dans les habitudes cette culture de la dénonciation. Donc je pense que ces chiffres s'expliquent aussi la prise de conscience et par la culture de la dénonciation qui devient réalité. Mais à côté de cela, n'oublions pas que la société ivoirienne est caractérisée par la loi du silence et donc les cas qui sont dénoncés sont des cas qui, pour moi, sont minimes par rapport à ce qui se passe.
Ghislain Pélibien Koulibaly, président de l'ONG Réseau des hommes engagés pour le genre. Et puis le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle vient de sensibiliser les leaders communautaires de Mans. Et l'objectif de cette rencontre était d'informer les différents leaders afin qu'ils soient le relais auprès de leurs communautés respectives sur l'opération de destruction et de pulvérisation des foyers de moustiques. En direct de Mans, Abel, pas César Kassam, mais plutôt Stéphane Adams.
C'est la salle de conférence de la préfecture de Mans qui a servi de cadre à la réunion de sensibilisation de population dans toutes ses entités contre la lutte du paludisme à Mans. Un aperçu de l'opération avec Dr Dago Yayoro Sylvain, médecin au programme national de lutte contre le paludisme.
Cette campagne va consister à faire la destruction des moustiques sous toutes ses formes. C'est une campagne qui se déroule en plusieurs phases. Aujourd'hui, nous avons fait la réunion de mobilisation des leaders communautaires pour que nous puissions passer le message stratège de la campagne à ces différents leaders pour qu'ils puissent donner l'information aux différentes populations. Après cette réunion des mobilisateurs, sensibiliser les différents ménages sur la manière dont il faut assainir son cadre de vie en détruisant les lieux de reproduction des moustiques. Il y aura aussi les applicateurs qui seront munis de produits qui vont passer pour pulvériser les ménages. Et puis les soirs, il y aura la grande opération de pulvérisation. Tout cela sera couronné par le passage des drones. Parce qu'il y a des grands bas-fonds où il y a de l'eau que l'homme ne peut pas traiter facilement. Donc les drones viendront avec les produits aussi pour pulvériser tous ces endroits.
D'où cet appel aux populations. Docteur Dago Yayoro Sylvain au programme national de lutte contre le paludisme.
On est là pour nous débarrasser des nuisances des moustiques. Mais on ne peut pas réussir cela sans l'implication effective des populations. Pour ce faire, nous voulons demander à nos parents d'accueillir favorablement tous ces acteurs qui viendront à eux. Les produits qui sont venus ne sont pas des produits toxiques pour l'homme.
À noter que c'est la deuxième édition de la campagne de lutte contre le paludisme à Mans. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
En actualité internationale, la dégradation continuelle de la sécurité sécuritaire, de la situation sécuritaire au Burkina Faso a engendré le déplacement de plusieurs milliers de personnes en quête vers un asile vers la Côte d'Ivoire. Ils ont trouvé pour la plupart refuge dans les régions de Bounkani et de Tchologo au 8 avril. Et puis nous rappelons également que c'est plutôt l'invité de la rédaction. Parlons cette fois d'actualité au Burkina Faso. 6 personnes, dont des acteurs de la société civile, ont été interpellées hier dimanche pour divulgation de fausses informations et incitation à un attroupement armé. Elles sont mises en cause pour avoir diffusé de messages audio appelés à brûler le palais d'un monarque traditionnel, le Moro Naba. Et leur arrestation fait suite donc à une enquête sur la diffusion d'informations criminelles ouverte début mai, dont on découvre les premiers éléments. Et puis élection en Mauritanie, une semaine après le scrutin des législatives régionales et municipales en Mauritanie, les résultats provisoires des régionales et municipales et du premier tour des législatives sont tombés. Avec près de 71,8% de participation, c'est une victoire écrasante pour le parti au pouvoir, Al-Insaf. Eh bien, scrutin très décrié par les partis d'opposition, mais aussi par la majorité qui avance depuis quelques jours, des dysfonctionnements le jour J. Nous allons retrouver à présent notre dossier d'actualité sur les réfugiés dans le Tchologo, dossier d'actualité sur les réfugiés présenté par Mata Touré.
Je viens du Burkina Faso, dans la région du Nord. Nous sommes ici, ça fait presque une année comme ça, à cause de la situation sécuritaire, ce qui nous a fait déplacer jusqu'au pays voisin. Au début, ça n'était pas facile. Nous avions peur, on se cassait. Notre premier souci, c'est avoir la paix là où nous sommes. Nous sommes très reconnaissants.
Aboubakar fait partie de ces 21 000 réfugiés estimant que d'Ivoire répartis entre le Bounkani, le Tchologo, le Folon, la Bagoué ou encore le Poro. Sur le site de transit de Nyoronigué, en cours d'aménagement à 3 km de Angolo-Dougou, il s'agit de 10 hectares sur lesquels sont déjà bâtis à près de 495 maisons, 4 forages d'hydraulique à motricité humaine, une voie de contournement de 2 km et 5 blocs de latrines. Ici, hommes, femmes et enfants de tous âges ont retrouvé refuge auprès des populations qui les ont accueillis tout naturellement. Le préfet du département de Ouangoulou-Dougou, Dongo Kobénan.
Lorsque le problème s'était posé de trouver un site, nous sommes adressés à cette communauté, la communauté de Nyoronigué. Et vraiment, elle a été ouverte. Elle a dit que si c'est au nom du chef de l'État, monsieur le préfet, regardez chez nous, dites-nous où vous voudrez. Et nous vous donnons l'espace. Je pense que c'est ce qui a été fait.
Face à cet afflux de réfugiés en provenance du Burkina, la Côte d'Ivoire n'a pas observé la politique de marbre. Elle a déployé des mécanismes pour pouvoir les accueillir et surtout leur porter assistance et protection. En charge de ce dossier particulièrement sensible, le Conseil national de sécurité a tenu sa première réunion de coordination avec ses partenaires à faire que ses deux goûts conformément aux dispositifs mis en place par le gouvernement. Fidel Sara Soros en est le secrétaire exécutif.
J'écoutais avec beaucoup d'attention l'intervention du chef de village. Il a dit en substance qu'ils étaient ouverts et que c'est avec une grande joie qu'ils accueillent leurs frères du Burkina. Mais que quelque part, que certains d'entre eux soient des personnes de pas très grande moralité et qu'ils demandent au gouvernement d'assurer leur protection.
Au niveau sécuritaire, les forces de défense et de sécurité se sont assurées que tous les sites soient sécurisés. L'objectif, selon le directeur de cabinet du président Alassane Ouattara, est que les populations en situation de demande d'exil puissent retourner le plus rapidement possible dans leur pays. Par conséquent, il a précisé que des dispositions seront mises en place grâce aux discussions avec les partenaires.
La dégradation continuelle de la situation sécuritaire au Burkina Faso a engendré, on l'a dit, le déplacement de plusieurs milliers de personnes vers la Côte d'Ivoire qui ont trouvé refuge en Bounkani et Tchologo. Au 8 avril 2023, ce sont 27 792 réfugiés estimés en Côte d'Ivoire. Et bien, pour faire face à cette situation, le gouvernement a mis en place un dispositif d'assistance humanitaire et l'aménagement de sites d'accueil des réfugiés. La rédaction reçoit pour vous, et bien, Fidel Sarasoro, qui est à faire caisser Dougou, en vue d'une bonne coordination des actions sur le terrain. Le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité répond aux questions de Manta Touré.
La rédaction reçoit ce matin M. Fidel Sarasoro, secrétaire exécutif du CNS. Monsieur le ministre, concernant la visite qui a eu lieu aujourd'hui et la réunion avec vos partenaires, qu'est-ce qui a été décidé?
Bon, premièrement, c'était une réunion de coordination qui avait été souhaitée, vivement souhaitée, par le gouvernement, le Conseil national de sécurité et l'ensemble des humanitaires. Comme vous le savez, depuis le mois de décembre de l'année dernière, nous avons eu un afflux de réfugiés en provenance essentiellement du Burkina vers la Côte d'Ivoire. Et il fallait que nous puissions prendre les dispositions pour non seulement les accueillir et surtout leur apporter assistance et protection. Le Conseil national de sécurité, qui est présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé dès le début du mois de février de prendre des dispositions pour que ces réfugiés-là, ces frères de pays amis, se retrouvent dans des conditions adéquates. Nous avons donc, au cours de la réunion de ce matin, examiné les différents aspects liés d'abord à la coordination au niveau central, la coordination au niveau local qui sera faite par les préfets de région. Nous avons également examiné les questions d'assistance en vivre et en non-vivre et les questions également liées aux questions, à la situation de la protection de ces réfugiés. Mais surtout, nous avons parlé également de la question de sécurité d'une façon générale. Nous avons convenu qu'il était important, dans la tradition d'hospitalité de la Côte d'Ivoire, que nous fassions preuve de générosité envers ces frères qui sont venus de l'étranger, que nous puissions les mettre dans des conditions optimales avec les populations d'accueil et que nous avons d'ailleurs félicité et remercié ces populations d'accueil qui ont non seulement accueilli ces populations venues du Burkina, mais également leur apporté le gîte et leur apporté la nourriture, les ont accueillis d'une façon générale. Il fallait également discuter de la question de sécuritaire, parce que l'afflux était essentiellement dû à la situation de conflit qui sévit au Burkina Faso. Et on voulait s'assurer qu'avec cet afflux-là, on ne prenait pas de risque pour la population d'accueil et la population ivoirienne. Donc nous avons examiné la question, nous avons discuté en long et en large de la question et nous avons bien évidemment fait des recommandations au ministère technique, au ministère de la Femme, en charge de la Femme, de la Famille, de l'Enfant, au ministère de la Solidarité, au ministère de la Santé, au ministère de l'Hydraulique, au ministère en charge des Ressources Animales et tout cela. Et nous avons également bien évidemment sollicité l'appui de nos partenaires. Les partenaires se sont montrés disposés à accompagner la Côte d'Ivoire. Nous avons examiné la question du ciblage géographique, le ciblage en termes de profil de ces personnes-là. Nous avons entrepris, comme vous le savez, la biométrie, un recensement biométrique de ces personnes, pour savoir qui ils sont, où est-ce qu'ils sont, leur profil. Et aujourd'hui, nous sommes en capacité de dire que, selon le ACR, ils sont à peu près 21 000, voilà, mais il y a 10 000 qui ont été profilés, et pour lequel nous avons des références biométriques. Il y a des sujets qui ont été évoqués, bien évidemment, comme je l'ai dit, la question de la sécurité. Nous avons fait des recommandations à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Nous allons les solliciter pour nous assurer que tous ces sites-là soient sécurisés. Et l'objectif, véritablement l'objectif, c'est que les populations qui sont là, sont en situation de demande d'asile, puissent retourner le plus rapidement possible dans leur pays. Et c'est pour cela que nous allons mettre les conditions, nous allons discuter avec nos partenaires. J'étais heureux de voir que la CEDEAO était là, j'étais heureux de voir également que l'ensemble du système des Nations Unies était là. Et l'objectif, c'est que dès que les conditions seront réunies, que ces populations-là puissent retourner dans leur pays.
Est-ce que la Côte d'Ivoire va être seule à soutenir et à supporter financièrement ce projet qui, on le sait, coûte relativement cher?
C'est vrai que ça coûte cher. Jusqu'à présent, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a fait preuve d'une grande disponibilité en mettant à disposition les ressources. C'est pour cela que nous avons sollicité au cours de cette réunion de ce matin l'appui de nos partenaires qui se sont montrés, comme je l'ai dit, vraiment disponibles. Nous avons fait une évaluation des besoins. Nous allons regarder le gap qu'il y a au-delà de l'assistance gouvernementale et les partenaires sous la houlette du coordonnateur du système des Nations Unies va mobiliser, en tout cas s'est montré disposé à mobiliser les ressources additionnelles pour nous accompagner.
C'est une situation transitoire, vous l'avez dit. Que vont devenir les sites que nous voyons aujourd'hui qui ont nécessité un tel investissement?
Nous allons également, bien évidemment, nous ne faisons pas d'illusion, ces sites-là vont servir. De toute façon, c'était dans nos projections, c'était un site qui devait pouvoir servir plus tard, notamment au service civique. Donc c'est un investissement sur le futur.
Merci infiniment.
Voilà, l'invité de la rédaction, Fidèle Sarasoro, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, était interrogé par Mata Touré. L'entretien portait sur la mise en place d'un dispositif d'assistance humanitaire et de sites d'accueil pour des réfugiés en provenance de Burkina Faso. Entretien qui referme ce journal, le rappel des titres. La publication de la liste électorale provisoire a été faite le 20 mai. Dans cette édition, le conseil spécial du président de la CEI est revenu sur quelques statistiques de ce listing, vous l'avez entendu. Et en prélude aux élections locales du 2 septembre 2023, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, OIDH, a produit un communiqué dans lequel il invite les leaders politiques à l'apaisement du climat en période électorale. Et puis au Burkina Faso, 6 personnes, dont des acteurs de la société civile, ont été interpellées hier dimanche pour divulgation de fausses informations et incitation à un attroupement armé. L'information revient à 15h sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Revue de presse à présent, signée Carlos Condé.
Bonjour à tous. La publication de la liste électorale provisoire le samedi dernier par